Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Est-ce qu'il y a la joie ce matin? C'est une célébration, n'est-ce pas? Regarde ton voisin, dis-lui, aide-moi à célébrer le Seigneur. Tu sais, c'est très important de savoir qui est à côté de toi. La personne qui est à côté de toi peut t'aider à célébrer le Seigneur ou à dormir. Amen. Tu ne peux pas être un mauvais voisin. Il faut aider l'autre à célébrer le Seigneur. Je voudrais dire merci à Dieu pour l'opportunité d'être ici encore, de retour à la maison. C'est toujours une joie de se faire adopter par une grande famille. Et je suis fier de faire partie de la Borne Matadi maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais aussi remercier le révérend Maurice, mon frère et mon ami, et remercier son épouse, maman, merci beaucoup, et toute l'équipe pour l'accueil. Nous sommes déjà ici hier, nous sommes arrivés très tard la nuit, presque minuit passé, avec les embouteillages. Il s'est fait que toute la délégation qui arrive, une bonne partie, il y a une autre partie qui arrive le mardi, et une dernière personne qui va arriver le mercredi, je crois. Et tout le monde, les bagages ne sont pas arrivés. Donc, hier encore, on nous a appelés. Le vol d'hier, les bagages ne sont toujours pas arrivés. Mais vous savez ce qui s'est passé? Nous étions en réunion de préparation avec toute l'équipe. Parce qu'il y en a qui sont venus de Dakota du Nord, il y en a qui sont venus du Liberia, il y en a qui sont venus des autres États des États-Unis. Et pendant qu'on était en conference call, la veille, le Seigneur m'a dit, dis à tout le monde de préparer au moins deux tenues, de le mettre dans leur bagage à main. Et ça m'est arrivé comme ça, j'ai insisté, j'ai dit, tout le monde doit préparer au moins deux tenues dans votre bagage à main ou votre sac à dos. Celui de le bishop de Liberia, lui n'était pas à la réunion, il avait oublié. Et c'est le seul qui était arrivé bredouille. Le pasteur Maurice et moi, nous devions lui acheter des habits et tout. Dieu merci à ceux qui ont été gentils. Il a quand même maintenant trois tenues pour la réunion en attendant que le bagage arrive. Et ils sont en bon esprit, ils sont allés prêcher dans d'autres églises. Je crois qu'au deuxième culte, tout le monde sera ici. Et nous allons commencer cette conférence. Nous avons commencé cette conférence avec joie et vraiment beaucoup de bonheur. Amen. Oh là 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 là, tu sais, vous savez, quand je reviens à la Borne Matadi, c'est là où mon français revient. Donc vous allez m'aider à sortir le français qui se perd quelque part à l'intérieur. Alléluia. Et c'est grâce aussi à mes réunions ici que j'ai vraiment réamélioré, parce que j'étais déjà presque un enfant perdu. Mais Dieu merci, oh, il nous a récupérés. Gloire à Dieu, amen. Alléluia. Le repos après un temps de crise. Je sais que le pasteur Maurice, quand il donne des thèmes pareils, c'est-à-dire qu'il a enseigné lui-même toute l'année depuis le début, il vous a vraiment saturé. Et il vient nous mettre en difficulté pour trouver le moyen d'expliquer un thème qu'il a déjà tout élucidé. Mais nous croyons que par la grâce de Dieu, il va nous aider à nous bénir ce matin. Nous allons juste faire une introduction pour permettre fixer l'audience sur ce que nous allons développé pendant les jours qui vont suivre. Est-ce qu'on est prêt à recevoir la parole du Seigneur? Je voudrais nous inviter à nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Josué, au chapitre 5, à partir du verset 9 à 12. Je veux vraiment que vous puissiez me suivre attentivement. Josué chapitre 5, verset 9, jusqu'à 12. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'en ce jour. » Gilgal veut simplement dire la honte qui a été ôtée. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans le plain de Jéricho. La Pâque veut dire simplement passer au-dessus. Parce que quand la mort est venue frapper, elle est passée au-dessus du peuple, parce qu'ils étaient dans le repos de Dieu. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, de pain sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce jour même. 12. Ça, c'est important. Si vous oubliez tout ce que j'ai dit, n'oubliez pas ce passage-là. La manne, c'est ça le lendemain de la Pâque. La manne, c'est ça. Il faut bien souligner cela, le lendemain de la Pâque. Et pourquoi? Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Et ils mangèrent de produits du pays de Canaan cette année-là. Vous pouvez vous rasseoir. Ils mangèrent le produit du Canaan cette année-là. Canaan, c'était la promesse qui leur avait été faite par Dieu. Après 400 ans, plus de 400 ans, 400 ans, 430 ans d'esclavage, Dieu a envoyé quelqu'un pour introduire, sortir son peuple de la crise qui est l'esclavage et de les amener à Canaan qui était leur repos. Et quand ils entrent, ce qui est intéressant, c'est que quand ils entrent, ils commencent les voyages dans leur repos, la gratuité s'arrête. Et on dit que ça s'est arrêté quand ils ont mangé le produit. Ça veut dire qu'ils ont produit là, et parce qu'ils ont produit, il n'y avait plus la gratuité. Parce que quand Dieu nous introduit, quand Dieu parle de son repos, il ne parle pas de la gratuité, il ne parle pas de l'inactivité, il ne parle pas de l'inattention. Suivez-moi. Exode. Nous voyons le peuple sortir de l'Égypte. Parce qu'Exode veut dire sortir. Ils ont été dans la crise pendant plus de 430 ans. Bizarrement, l'Afrique a été en esclavage un peu plus de 400 ans aussi. Suivi d'une néocolonialisme, après suivi d'une colonisation qui a duré presque 500 ans. Et ce qui est bizarre, c'est qu'après ces temps-là, Dieu va envoyer quelqu'un, Moïse, pour sortir son peuple, suivez-moi bien, de l'esclavage. Et il commence un voyage. Dans le livre d'Exode, au chapitre 14, on nous montre comment Dieu a opéré un miracle extraordinaire en divisant la mer Rouge. Il leur dit, l'Éternel combattra pour vous, gardez silence. C'est-à-dire, ne faites rien. Effectivement, quand Dieu a dit ne faites rien, c'était littéralement. Ne faites rien, ne levez même pas un doigt. Suivez seulement mon mouvement en moi. Il dit à Moïse, avance la main. Moïse le fait, il divise la mer. Tout ce que Moïse avait à faire, c'est... On ne divise pas la mer avec un bâton. C'était symbolique. Dieu était en opération. Tout ce que le peuple faisait jusqu'à là, c'était du suivisme. Il suivait seulement. Dieu était responsable à 100% de leurs besoins. Il accomplissait la promesse qu'il avait donnée de les porter sur ses ailes comme des aiglons. Il vivait une vie gratuite. Mais il n'était pas encore en repos. Parce que si le repos veut dire j'ai tout ce dont j'ai besoin et je ne fais plus rien, alors ce verset, ce chapitre n'a plus de sens. Parce qu'ils étaient déjà, ils recevaient tout gratuitement. Ils avaient Dieu pour se battre de leur côté. Enfin, pas à leur côté, pour se battre pour eux. Dieu divisait l'océan pour eux. Dieu faisait des choses pour eux. Et pendant tout ce temps, nous quittons Exode, nous arrivons dans les livres de Lévitique. Dieu les organise, leur donne des règles de conduite. Lévitique veut dire les lois mosaïques prescrites par Moïse aux Lévites. Le mot Lévitique vient de Lévite qui produisait des lois pour le pays selon qu'il recevait cela du Seigneur. Et nous quittons là-bas, nous allons dans les livres de Nombres. Et là, Dieu les organise en société, comme ça doit être, en groupe. Le nom lui-même, c'est Nombre. Il les organise en ethnie, en groupe, en tout. Ils sont maintenant un peuple prêt, temps prêt. Pendant tout ce temps, mes amis, pendant tout ce temps, ils ne font rien. Ils mangent la manne gratuitement. Ça sort le matin. Ils vont cueillir, ils mangent. Le lendemain, ils savent que ça va tomber encore. En fait, après 40 ans, ils se sont habitués à une culture de la gratuité. Parce que 40 ans, c'est presque une génération et demie. C'est-à-dire, leur concept de vie n'est plus seulement quelque chose qu'ils voient, ça se reproduit maintenant dans leur ADN. Ils sont dépendants de Dieu qui fait tout pour eux. Et Dieu avait organisé les choses de cette manière-là. Pendant 40 ans, ils sont maintenant habitués à la culture de la gratuité, mais ils ne sont pas encore dans le repos. Parce que malgré qu'ils sont sortis de l'esclavage, l'esclavage n'était jamais sorti d'eux. Il fallait 40 années dans le désert pour forcer à la semence et à la culture de l'esclavage de laisser leur pensée. Dieu savait que si le concept mental n'est pas transformé, ils ne vont pas transformer le repos. Le 40 années perçu comme une persécution était en fait une période d'épuration. Dieu était en train de les reconfigurer. Parce qu'on n'entre pas dans le futur avec le protocole du passé. Si tu permets au passé d'entrer dans ton futur, il va recréer pour toi ton passé dans ton futur. Le temps des tests te prépare à t'extirper de tout le passé, afin que tu sois vide et d'entrer dans le futur avec un protocole approprié au futur. Parce que recevoir le repos ne suffit pas, il faut le consolider. Et on ne peut consolider quelque chose que quand on a développé une mentalité de la consolidation. Mais il venait de l'esclavage, c'était impossible, il n'était pas encore qualifié à être des princes. Parce qu'ils ont passé toute la vie comme esclaves. Il fallait un temps de transition. Dis à ton voisin, je suis en transition. Tu vois ce mariage brisé là? Je suis en transition. Tu vois ce travail que j'ai perdu? Je suis en transition. Tu vois ce fiancé qui m'a quitté? C'est parce que je suis en transition. Tu vois cette relation que j'ai perdue, ces affaires que j'ai échouées? C'est parce que je suis en transition. Et quand on est en transition, au lieu de pleurer, il faut apprendre. Il y a deux dimensions. Il y a deux méthodes de survivre à la transition. Vous pouvez passer à travers la transition ou vous pouvez grandir à travers la transition. C'est votre choix. Et le choix se détermine par la compréhension de la promesse de Dieu et la confiance en celui qui vous a parlé. Si vous savez que c'est Dieu qui vous conduit, quelles que soient les réalités qui vous entourent maintenant, les réalités ne vont pas conditionner votre déclaration prophétique. C'est la promesse qui confirme et qui détermine vos déclarations prophétiques. Vous n'avez pas encore, mais vous parlez comme si vous aviez. Parce que vous savez celui qui a fait la promesse. Et la Bible dit que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. On ne prend pas de décision permanente pendant une période transitionnelle. Pendant la transition, on se réserve de beaucoup parler. On se réserve de s'auto-maudire. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas maintenant que ça veut dire que ça ne marchera pas dans 2 ans. Tu es en transition. En transition, on se tait. Et quand ils arrivent juste là, la nuée le conduit, ils n'ont pas besoin de GPS. Ils n'ont pas besoin qu'on leur donne l'adresse. Quand la nuée se lève, ils se lèvent. Quelle vie facile. Quand la nuée se couche, ils se couchent. Quand la nuée se lève, ils se lèvent. Quand la nuée se couche, ils se couchent. Le matin, la nourriture tombe du ciel préparée par la cuisine céleste. C'est tout celui qui mangeait la manne, elle avait dans sa bouche les goûts qu'il voulait. Sinon, il serait saturé de la manne. Il serait fatigué. Aujourd'hui, c'était le pondou. Demain, c'était la viande. Demain, c'était le poisson. Chacun recevait ce qu'il voulait. Dieu, c'est un expert en provision. Il continue comme ça pendant des années. Pendant des années. Ils ne sont pas encore dans le repos. Ils sont dans une zone entre l'esclavage et la principauté. Une zone au milieu là, qui n'a presque pas de nom. C'est comme ça que tu ne comprends pas parfois là où tu te trouves. Ta vision est noire. C'est pas clair, c'est pas mal, c'est pas bon, c'est pas encore là. Tu es confus parce que tu es en... Pendant la transition, on ne signe pas des ordonnances qui vont perdurer. Un gouvernement transitionnaire ne peut pas prendre des décisions. Un gouvernement transitionnaire, qu'est-ce qu'il fait? Il conduit les affaires... Et pendant cette période, Dieu va changer le leadership. Le leadership de Moïse va s'arrêter et le leadership de Josué va commencer. Je vais ouvrir une parenthèse. Parfois, dans la période de transition, si le leader qui conduit n'a pas réalisé, n'a pas compris, ou si la mentalité des personnes qu'on conduit n'est pas encore là où le leader pense que ça doit être. Et si le leader ne fait pas attention, les transitionnaires vont lui coûter sa destinée à lui. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Dieu dit que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Mais les hommes l'ont akoutani nabaoyo bakoutana la bangota. L'homme, c'est un animal compliqué. Et quand finalement Josué assume le leadership, au chapitre 5, maintenant ils arrivent au Jourdain. Le Jourdain, c'est la frontière entre le passé, la zone transitionnaire et les débuts du futur. Ils doivent traverser. Et Josué va opérer un miracle. Parce que c'est important pour que les gens... Dieu a même dit qu'aujourd'hui ils vont commencer à voir que je suis avec toi, comme j'étais avec Moïse. Dis à ton voisin, Dieu fait des miracles par rapport à son agenda. Et quand il fait ça, ça peut promouvoir l'instrument, mais l'instrument doit comprendre qu'il n'est pas déclencheur de miracles, que les miracles sont faits parce que Dieu était dans son programme. Si on ne comprend pas ça, on devient vendeur d'onction, vendeur de prophétie, vendeur de miracles, on promet ce qu'on ne peut pas réaliser. Josué n'était pas... Toutes ces années où il était avec Moïse, il n'avait fait aucun miracle. C'était un soldat. Mais Dieu lui a dit aujourd'hui, je vais faire pour qu'il sache que je suis avec toi. En fait, Dieu l'a fait par rapport à lui-même. Pas par rapport à Josué. Josué était seulement un bénéficiaire accidentaire d'une circonstance prophétique. Dieu devait le faire. Mes amis, suivez-moi. Et quand ils traversent le Jourdain, Dieu leur ordonne de célébrer la Pâque. Ils célèbrent la Pâque. Avant de sortir de l'esclavage, ils avaient célébré la Pâque la nuit d'avant. Maintenant, à la fin de la période transitionnelle, ils célèbrent la Pâque et ils commencent un nouveau chapitre. Et on nous dit, après le Jourdain, la nuée s'était arrêtée, la colonne de feu n'était plus présente et la manne avait... Alors qu'ils viennent d'entrer maintenant dans Canaan, qui est censé être leur lieu de repos. On aurait pu comprendre que maintenant en Canaan, Dieu va multiplier la manne, il va multiplier des miracles, il va leur donner beaucoup plus de gratuité, comme ça ils ne vont rien faire, ils sont en train de se reposer et Dieu fait tout. Dieu les oblige de prendre leur destin en main. Maintenant, Dieu ne va plus faire la guerre pour vous, mais il va faire la guerre avec vous. Maintenant, ce Ce n'est plus lui qui va diviser la mer. Il va seulement vous donner, exercer vos mains au combat. Et nous allons voir à partir de ce moment où ils occupent Canaan, leur terre de repos, qu'ils ont commencé le processus de la consolidation de ce repos-là. La première chose qu'ils devaient faire, c'était conquérir tout le territoire. Quand nous parlons du repos, mes amis, nous ne parlons pas de la cessation des activités. Le repos que Dieu nous donne n'est pas une léthargie, n'est pas une attitude sans mouvement. Ce n'est pas s'asseoir ou s'endormir, attendre que Dieu fasse tout pour nous. Non, le repos, quand Dieu nous donne le repos, il nous introduit dans un processus d'innovation, de création, de développement et de consolidation de ces ressources qu'il nous a données. Dans le cas du Congo, Dieu ne va pas construire pour nous le pays que nous voulons. Dieu libère nos pensées à travers le message qu'on nous donne dans cette église pour que nous puissions construire le Congo que nous voulons. Le repos ne se reçoit pas, il se comprend. On réalise. Et on ne peut réaliser que quand la pensée est délivrée. C'est comme ça qu'un vrai repos, en réalité, c'est une délivrance. 400 ans d'esclavage, ils étaient possédés par une mentalité de pauvreté, de dépendance. Ils étaient de pleurnichards. Ils se plaignaient tout le temps. Et on a vu cela pendant 40 ans, c'est des plaintes après plaintes, jusqu'à ce qu'ils ont fatigué Moïse. Parce que c'était ça la culture. L'esclave se plaint. Toujours. Quand il ne réussit pas, c'est la faute de l'oncle qui la sorcelle. Quand il ne se marie pas, c'est la tante qui est responsable. Même quand on est rempli du Saint-Esprit, on est enfant de Dieu, on trouve de boucs émissaires. Moi, je ne comprends pas ce concept. Comment un sorcier peut avoir le pouvoir de bloquer la vie d'un enfant de la borne qui a cherché Dieu pendant 10 ans? Ndokini ni wana le kiyesu. Le problème, c'est quoi? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. La peur, c'est une foi renversée. Quand tu as peur, tu crées le monde dont tu as peur. Ce qu'on ne comprend pas, c'est des mystères. C'est comme ça que Jésus a dit, Dieu a dit dans sa parole, n'aie pas peur. Il dit à Josué, n'aie pas peur. Fortifie-toi et prends courage. Car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais c'est à Josué d'accepter cela. Il y a deux types d'individus dans nos églises. Ceux qui acceptent le message et qui agissent sur le message. Et ceux qui acceptent le message qui attendent que Dieu agisse pour eux. La parole ne peut pas nous transformer tous de la même manière. La parole nous transforme proportionnellement à la capacité, notre capacité d'être malléable par rapport à la parole. On ne change pas, on ne peut pas manipuler une pierre comme on manipulerait une feuille ou de l'eau. Quand on reçoit la parole, il faut être comme de l'eau. Tu prends la forme que la parole te donne. Dieu envoya Moïse 400 ans après, il les a libérés. Ils entrent en Canaan, tout s'arrête. Maintenant qu'ils ont le repos, ils doivent entrer dans la phase de la réalisation que je ne suis plus un esclave. J'ai passé 40 ans de ma vie à apprendre, à me réadapter à la réalité du fait que je ne suis plus esclave. Tous ceux qui ont refusé de se réadapter, ils sont morts dans les déserts. Dieu s'est servi de la génération nouvelle qui était née dans les déserts, qui c'est intéressant. Une génération qui s'asseyait au pied de Moïse dans Deutéronome veut dire rappel. Moïse leur donnait des leçons pour que l'esclavagisme ne traverse pas de leurs parents vers eux. C'est-à-dire cette nouvelle génération, Moïse disait, il leur disait souvent, rappelez-vous, pour s'assurer qu'ils ne vont pas réfléchir comme les esclaves. Croyez-moi, l'environnement nous affecte. Dieu, ton Dieu, sera pour toi à la dimension de ta foi. Ce que tu crois de ton Dieu, c'est ce qu'il sera pour toi. Quand Dieu nous accorde son repos, il nous donne, il nous aide à arriver au stade de la réalisation que nous ne sommes plus des esclaves. Entre l'Égypte et la terre, Canaan, qui est le repos, il y avait le Jourdain, qui était la ligne de démarcation, la frontière entre le passé et le futur. Et il commence le futur, il commence le repos avec un sens de responsabilité. Maintenant, vous devez cultiver la terre, vous devez la dompter, vous devez la transformer et vous devez la manipuler. Vous devez demander à la terre de vous rendre ce que vous mettez dedans. Ce que Dieu faisait, il leur a accordé la faveur. Dieu nous accorde la faveur. Dieu ne va pas faire pour nous. C'est pourquoi il nous a déjà équipés à faire pour nous-mêmes. C'est comme ça que le bonheur d'un pays dépend de la qualité de ses dirigeants. Oh, que Dieu nous donne des dirigeants qu'il faut. Pourquoi Dieu n'a pas pris quelqu'un d'autre après Moïse pour diriger son peuple? Parce qu'il savait que la qualité du repos de son peuple dépend de celui qui le conduit. Le temps de Moïse était arrivé. Dieu devait aussi le protéger. Je crois que s'il avait continué, il allait manquer le ciel. Il allait vraiment être perdu complètement. Il a manqué quand même, mais il n'a pas manqué le ciel. Mais je suis sûr que s'il avait continué avec des humains, il allait manquer le ciel. Sa patience était testée jusqu'au bout. Dieu a dit, c'est le temps de faire le switch. Il faut que quelqu'un d'autre prenne le relève. Je suis appris avec du sang nouveau. Mais je suis un soldat. Il a une autre mentalité. Il était au pied de Moïse pendant des années. Dieu l'a sélecté. Parce que Dieu savait que l'étape qui va suivre, c'est l'étape de conquête. Moïse n'est pas militaire. Je suis un militaire. Ce n'est plus l'étape de l'éveil. Ce n'est plus à moi de faire tomber des pierres, d'ouvrir l'océan. Maintenant, c'est à eux d'apprendre à combattre. Et pour cela, j'ai besoin d'un général. Oh, non, mes amis, si Dieu vous met quelque part dans un endroit de responsabilité, ne prenez pas les médiocres. Ce n'est pas parce que c'est votre cousin. On vous nomme ministre, tout votre cabinet, tout le monde a le même nom. Vous vous entourez de masters. Un master ne peut pas comprendre le rôle pour lequel Dieu t'a appelé. Notre pays a souffert de ces choses. Vous voyez, le leader à la tête, plein de bonne volonté, une bonne vision. Dans le cabinet où il est, il veut changer les choses. Mais les médiocres sont là. L'erreur que beaucoup de leaders font, c'est de s'entourer de médiocres pour qu'ils brillent. Parce qu'il a peur qu'on voit qu'il y a quelqu'un dans son cabinet qui est plus que lui. Or, un vrai leader, c'est un atalak ou des autres. Parce que ceux qui sont en dessous de toi ne te dépasseront jamais. Ils ne seront jamais ton père ou ta mère. Qu'ils les veillent ou pas, qu'ils les reconnaissent ou pas, tu les as engendrés, ils ne t'engendreront jamais. Ça, c'est déjà fait. S'ils les reconnaissent, ils continuent à s'élever. S'ils se rebellent, ils vont tomber. Quand Dieu te met quelque part, cherche des gens qui sont plus que toi, plus intelligents que toi, plus forts que toi. Si toi tu écris 100 lettres, 100, tu tapes à la machine 100 lettres par minute, cherche celui qui tape 200. Parce que quand celui-là brille, on ne va pas le citer lui. On va dire, le directeur là travaille, hein, très bien. On m'a dit, problème na yo, aux alibomans, aux aveugles, tu ne vois pas loin. Quand ton département évolue, ça évolue parce que le casting est compétent. Pour quelqu'un qui a réalisé que c'est le temps de repos pour sa vie, il ne joue pas avec le choix de ce qu'il met en position. Il n'agit pas sentimentalement. Vous êtes des masters, on se retrouve, on prend du jus, on mange des shawarma, ça se termine. Quand je suis au bureau, je suis au bureau. Qui master à la cité. Le Congo doit changer. Et pour que ça change, nous devons avoir le courage d'être impopulaire. Vous ne pouvez pas être un leader si tout le monde vous aime à tout moment. Ça veut dire que vous êtes en train d'échouer quelque part. Les décisions difficiles créent des ennemis. Mais c'est des ennemis circonstanciels. Ils n'ont aucun pouvoir de vous influencer. Quelqu'un peut vous haïr, mais il ne peut pas vous haïr jusqu'à enlever la faveur de Dieu sur vous. Vous ne pouvez pas changer la médiocrité des autres, mais vous pouvez améliorer la qualité de vos décisions et de vos choix. Je disais, vous ne pouvez pas changer la médiocrité des autres, mais vous pouvez améliorer la qualité de vos décisions et de vos choix. Parce que les psychologues nous disent que la vie, c'est 20% de ce qu'on vous fait. Mais c'est 80% de la réaction par rapport à ce qu'on vous a fait. C'est vous qui déterminez si ces injures-là ont de l'impact sur vous. Parfois, nous donnons de l'importance à la médiocrité. Si on ne vous insulte pas, ça veut dire que vous n'êtes pas encore en Canaan. Vous pouvez être humble comme une feuille. Le médiocre va trouver un endroit où vous êtes orgueil. Et vous passez votre temps à la distraction. Josué a dit à un moment donné, vous maintenant choisissez qui vous voulez servir. Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il était déjà fatigué. Il a dit, moi je ne fais pas comme Moïse. Faites ce que vous voulez. Moi et ma maison, nous allons servir Dieu. Moi et les enfants, physiques, biologiques et spirituels, qui comprennent mon appel, ma vision, qui voient là où nous partons, nous allons continuer. Laissez les médiocres exceller dans la médiocrité. Et vous allez voir maintenant qu'après la traversée du Jourdain, dans le processus de la consolidation, parce que maintenant ils ont compris qu'ils ne sont plus esclaves. Et parce qu'ils ont compris, ils sont devenus des soldats formidables. Une petite armée, et ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls. Ils se battaient avec Dieu. Dieu ne se battait plus pour eux. Il n'ouvrait plus la mer. Il ne faisait plus tomber des pierres à tout moment comme non. Maintenant, Dieu se battait à travers eux. Et parce qu'ils ne sont pas esclaves, ils voyaient la principauté. Ils voyaient qu'ils étaient des princes. Ils allaient vers la consolidation de ce repos qui s'appelle le Canaan. Il faut maintenant éliminer le médiocre du territoire. Il faut enlever la saleté du pays et construire une nation dont Dieu sera fier. C'est ça le défi de l'église de la RDC. Moi, je ne peux pas comprendre que 90% des personnes qui dirigent nos institutions disent qu'ils sont membres des églises. Mais le niveau de la corruption, même le diable est étonné. Qu'est-ce que je n'ai pas vu dans ce pays? Combien de fois j'ai appelé le pasteur Maurice? On a juste fait un essai d'amener des échantillons dans ce pays. Le pasteur Maurice devait être au téléphone pour appeler ici, appeler là-bas. Vous trouvez quelqu'un qui veut, oh révérend, je vous connais, moi je vais à telle église. Mais à la fin, on vous envoie des gens pour dire, ah, Namboko, il faut qu'on ait un athée, révérend, il faut qu'on ait un athée. je vais Ningane et demain vous dites pasteur Rwanda est corrupteur. Et c'est des gens qui... C'est ça justement le problème. On n'a pas encore conscience. Quand on a conscience qu'on est dans la face, moi je vous dis la vérité, mes amis, le Congo est en train, le Congo est en transition vers une grandeur extraordinaire. La géopolitique mondiale est en train de changer. Nous, chrétiens, nous devons aussi faire fonction de notre cerveau. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné un cerveau qui a presque un kilo de 4 kilogrammes. 3,5 ou 4. Si tu n'utilises pas ton cerveau, tu portes un poids vide. Tu fais souffrir ta tête pour rien. Tu portes un cerveau qui ne marche pas. Pourquoi porter un poids inutile? Prends le temps de voir. Tu pries le Seigneur. Quand on est dans le repos, on observe pour les opportunités afin de briller. Dieu, j'ai traversé toute cette zone noire de pression dans la vie. J'ai connu ça, j'ai connu ça, tout ce que j'ai connu dans la vie. Qu'est-ce que tu m'apprends? Si tu n'apprends rien pendant ta transition, tu as perdu 40 ans dans les déserts pour rien. La souffrance est une école qui te donne des qualités que les amis ne peuvent pas te donner. Il y a une sagesse. C'est comme ça que quand on parle de l'expérience, ça veut dire quelque chose de vécu. On n'a pas l'expérience quand on va à l'école. L'école te donne la connaissance. La vie te donne l'expérience. Et la souffrance te donne l'expérience raffinée. C'est dans la souffrance que Dieu te montre le cœur de tes futurs amis. C'est facile quand on est pasteur Maurice à ce niveau d'attirer tout le monde comme ami. Mais il lui connaît ce qui était avec lui quand il n'était pas ce Maurice là. Il peut vous ne pas être compétent dans le ministère. Dieu les a envoyés pas pour son œuvre, il les a envoyés pour lui. Oh, demain, je suis content qu'on entre dans le leadership demain. C'est très important, mes amis. Et Dieu le responsabilise, premièrement, il doit conquérir les territoires complètement. Et Dieu leur donne des inspirations, mais c'est eux qui agissent. Dans le repos de Dieu, nous sommes invités à un travail précis. C'est un repos parce que le travail est bien précis et la vision est claire. Nous savons là où nous partons. On n'est plus éparpillé. Le désert leur a appris le sens des priorités. Ce mariage qui a échoué t'a appris la priorité dans le prochain. Maintenant tu sais que si ça a échoué, c'est parce que tu étais un mauvais mari. Tu prends les échecs d'hier, tu les utilises comme des tremplins d'aujourd'hui afin de donner à cette nouvelle épouse que tu as le bonheur que tu es incapable de donner. C'est la transition qui a fait de toi le meilleur papa, la meilleure maman. Les épreuves nous préparent à la grandeur. Si tu ne changes pas, c'est que niveau Gizobanayo est dans la choix. Comment tu peux souffrir pendant 10 ans pour répéter la même bêtise dans la nouvelle opportunité? L'insanité, la définition de l'insanité, c'est de faire la même chose plusieurs fois et espérer un résultat différent. Si tu prends le bus qui va à Kinshasa, tu restes sur la nationale numéro 1, tu arriveras à Kinshasa. Tu ne vas pas arriver à Bukavu. Tu ne vas pas arriver en Angola. Si tu vas arriver en Angola, va dans le sens contraire. On ne peut pas aller à Mwanda partant de cette manière. La vie, c'est comme ça aussi. Et c'était ça le but. Les 40 années dans le désert. Deutéronome nous dit, Dieu avait permis cela pour tester vos cœurs, voir si les cœurs étaient là où il fallait. Parce que c'est très important la qualité de ton cœur dans le repos. Surtout quand tu joues un rôle d'influencer les destins des autres. Si le cœur n'est pas correct, le peuple va souffrir. Je vais prendre le dernier, chapitre, le dernier passage. 3 Jean 2, le verset le plus populaire qui a détruit l'Église aujourd'hui. Je souhaite, on peut le dire ensemble, ça on peut réciter même en dormant. Je souhaite que qu'on prospère. Quand Dieu nous accorde le repos, parce qu'en fait le repos dans le langage prophétique veut dire la prospérité. Parce que la prospérité veut dire la paix du cœur qu'on reçoit quand on est reposé. Je souhaite que tu prospères, que tu sois dans le repos à tous égards, et que tu sois en bonne santé, comme dans le repos de Dieu, l'âme est l'élément déterminant. C'est l'unité de mesure par rapport à tout autre repos, parce que le repos de Dieu est holistique. Ça veut dire qu'il est total, il n'est pas morcelé. Quand Dieu nous introduit dans son repos, ce n'est pas dans un domaine et pas dans l'autre. C'est global, ce n'est pas morcelé. Parce que ce repos-là commence dans la mentalité, dans le mental. Et s'il y a le repos dans la tête, il peut y avoir des chaos autour de toi, tu vas fonctionner dans le repos. Tu me suis, mon ami? Et Dieu dit, comme prospère l'état de ton âme, c'est-à-dire que si tu évolues dans un domaine, et l'âme n'évolue pas, c'est-à-dire que tu es en train d'évoluer en désordre, tu n'es pas balancé, tu vas tomber. L'âme devient l'unité de mesure. Regarde la qualité de ton âme par rapport à ta relation avec Dieu. C'est celle qui détermine maintenant que tu sois riche ou milliardaire ou millionnaire. L'âme, si l'âme est correcte, la bonne santé et le reste, c'est l'âme qui va attirer tout ça. Parce que si tu es en bonne santé, et que tu es malade de ton, dans ton âme, tu vas aller en enfer. Toi, tu es concerné par rapport aux bénéfices physiques. Dieu est concerné par rapport aux bénéfices éternels. Toi, tu veux te marier. C'est peut-être 40 ans de mariage, 50 ans de mariage, et puis c'est tout. On va mourir. Après, tu vas où? Dieu investit dans l'éternité pour toi, pendant que toi, tu te bats à investir dans le temporaire pour toi. Ce que Dieu veut, c'est que l'éternité soit réglée pour toi. Et finalement, maintenant, tu commences ton voyage à régulariser ton temporaire. On ne peut pas renverser la tendance. Merci. Cherchez premièrement le royaume. Toutes autres choses vous seront ajoutées par-dessus tout. Ce sont des annexes. Le mariage, c'est l'annexe. Le boulot, c'est l'annexe. Tout ça, c'est des annexes. Mais la chose, c'est sa relation avec le Seigneur. Parce que quelqu'un qui est correct avec Dieu, même au milieu du désert, il sait pourquoi il est là. Il ne passe pas à travers le désert, il grandit à travers le désert. Le repos que nous recevons du Seigneur impacte premièrement notre âme, dans laquelle se trouve le centre de nos émotions. Ça veut dire notre capacité réactionnelle, rattachée à nos émotions, est influencée dans la manière dont nous répondons, nous connectons avec les autres. Tout dépend de la qualité de notre âme. Si l'âme est remplie d'amertume, de colère, de haine, tout ce qui sort, ça blesse, ça coupe, ça détruit, ça divise. Tu viens quelque part là où les gens sont unis, et tout ce qu'il te faut, c'est une journée, la guerre commence. Parce que tu as la guerre, le volcan en toi. Tu ne peux pas produire le bonheur, la paix, la tranquillité. Non, tu es pourri à l'intérieur. Tu ne peux pas produire le bonheur pour les autres. Dieu doit fixer nos âmes. Quand l'âme est fixée, l'âme est prospère. Et Dieu te donne la prospérité des fonctions. Où tu deviens gouverneur, représentant, ministre, directeur d'entreprise, tout ce que tu veux. Avec une âme qui est correcte. Tu vas te poser la question importante. La première, qui suis-je? La réponse, enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, quelle est ma culture? Réponse, culture de la vérité. Deuxièmement, quelle est mon audience? Mon audience, c'est l'audience d'une seule personne, Jésus. Quand je signe l'ordonnance pour nommer des gens, je glorifie qui? Qu'est-ce que je vais faire pour cette province? C'est pour la gloire de qui? Je veux que les gens disent quoi? Oh, Dieu merci. Pouvoir. Thank you. Merci Seigneur d'avoir des enfants de Dieu. Vous savez que ça fait mal. Pour que les gens ils disent, ah, même le frère de la borne font ça. Vous nous faites honte quand on ne fait pas honneur au Seigneur. Parce que dans l'éthique chrétienne, il y a trois questions importantes. Pour tous ceux qui sont étudiants de la Bible, il y a trois fonctions importantes dans l'éthique chrétienne. L'éthique, c'est féminin ou masculin? Oh, éthique, thank you, merci. Une éthique chrétienne. Trois dimensions importantes. La conduite, le caractère et le but. La conduite, c'est comment vais-je vivre ma vie? Le caractère, c'est quel genre de personne vais-je être? Le but, pour qui dois-je vivre? Ce sont les trois questions importantes. Mais ça ne peut se faire que dans une âme qui a été corrigée, réparée, prospère d'abord. C'est ça la première étape du repos. Quand le leader atteint ce niveau-là, il va influencer le reste. Parce que vous ne trouverez jamais le tribalisme chez une personne comme ça. Parce qu'il va se dire, ma décision, est-ce pour plaire mon ethnie ou c'est pour plaire le Seigneur qui m'a mis là? Quand il regarde les dossiers des gens qui appliquent, il ne regarde pas l'origine, il regarde la compétence. Parce qu'il sait qu'il y a dans l'audience quelqu'un qui regarde. Il a conscience de l'audience. Et ce n'est pas les gens autour de lui. C'est le Seigneur qui est assis, qui dit, Maurice, je t'ai donné cette fonction. Je vais voir comment tu joues maintenant. Et tout ce que tu fais, le diable regarde, les anges regardent. Quand tu honores Dieu, le ciel est content. Jésus est fier. Quand tu fais des choses horribles, le diable qui se... Je t'avais dit. Je t'avais dit, c'est parce que tu ne lui as pas... On sait comment il parle, on sait comment il a parlé de Job à Dieu. Rappelle-toi de cela. L'âme est la phase importante. Et ça entraîne la bonne santé, ça entraîne le matériel. Et quand tu arrives à ce niveau-là, tout le monde sait que tu es riche. Parce que quand on est riche, hein, on est riche. On ne montre pas. On n'en parle pas. Ça parle de soi-même. Un riche, même s'il est en culotte, il est riche. D'ailleurs, ne portez pas de culottes quand vous n'êtes pas riche. Ce n'est pas beau à voir. Nous devons nous cacher dans le veste un peu. Mais quand on est très riche là, on vient en réunion en cinglé. Mon beau-père est venu nous visiter aux États-Unis. Et je lui ai dit, non, tu sais, ce soir, il y a le maire de la ville qui veut nous recevoir. Parce que c'est un très bon ami. Je lui ai dit, va nous recevoir chez lui. Il dit, ah, mais comment je vais m'habiller? J'ai dit, simple. Il dit, non, le maire de la ville. J'ai dit, oui, on va manger chez lui. Et le matin, il se lève, il met sa veste, cravate, bien, costume. On arrive chez le maire, il est en train de couper sa pelouse, en culotte. La veste de mon papa n'a pas été respectée. Il coupait sa pelouse. On est assis là, on parle, on papote, c'est tout. Puis il me dit, oh, il fallait, mais j'ai dit, oui, je vous ai dit. La veste ne fait pas le maire, c'est le maire qui fait la veste. Quand l'homme est dans le repos, ça veut dire prospère, ça veut dire en confiant en Dieu. Quand l'âme est là, les restes, quand ça monte, il y a une balance. C'est là maintenant qu'on a la joie de l'Éternel qui est ma force. Parce que je sais qui m'a mis là où je suis. C'est Dieu. Si c'est Dieu qui vous a béni, qui vous a introduit dans votre repos, vous n'avez de compte à rendre à personne. Il est votre seul sponsor, il est votre seul parrain, c'est lui qui vous a mis là. C'est pourquoi, mes amis, ne cherchez pas à ce que les hommes vous élèvent par des truqueries et par la tricherie. Vous resterez redevables à ces hommes-là. Vous n'allez rien faire pour la RDC parce qu'ils vous ont mis là pour nourrir leur ventre, pas pour nourrir le peuple. Parfois, il faut avoir le courage de dire « Dieu t'a utilisé, tu m'as mis là, mais je ne t'appartiens pas, j'appartiens à la nation. » On ne refuse pas. Il y a des gens qui arrivent quelque part d'une certaine manière et ils ont le courage de craindre Dieu. L'argent de l'État, ce n'est pas pour toi. Comment se peut-il que le pays comme celui-ci, je ne peux pas finir sans dire ça, mes amis, un pays comme celui-ci, riche comme tout, et nous sommes dans des conditions telles que nous sommes. Vous prenez un pays comme la Suisse qui ne produit rien, qui n'a que la tête et le système bancaire, qui s'est développé par l'argent des autres. Parce que tous ces voyous leaders qu'on a en Afrique prennent l'argent, ils vont mettre en Suisse, et la Suisse se développe. La pension nationale de fonctionnaires français, jusqu'à aujourd'hui, est soutenue par 55% de fonds de souveraineté des 14 pays d'Afrique. Pendant que leurs propres pensionnés n'ont rien. Mais leur pays paye la pension des fonctionnaires français. Pourquoi? Parce que la domination mentale a fait son travail. Ne jouez pas avec la colonisation mentale. C'est pire que d'être à Makala. Vous pouvez être en prison, mais vous êtes libre. C'est comme ça que Mandela, disons, lui a posé la question. Comment tu pouvais rester en prison 27 ans? Il dit, c'était mon corps qui était en prison, mais ma pensée était libre. Les hommes libres ne craignent pas qu'on les enferme. Ils craignent qu'on les empêche de penser. La vraie prison, c'est quand on ne peut plus penser. Il n'y a rien de pire qu'un leader qui n'a pas son peuple à cœur. Que Dieu bénisse votre pasteur. Que Dieu bénisse son épouse. Que Dieu bénisse vos leaders ici. Parce qu'on sait voir les résultats de l'amour qu'ils ont pour le Seigneur. Regardez combien de pasteurs sont sortis. S'il n'avait pas le cœur là où il fallait. Un homme de Dieu qui a la grâce de Dieu, Dieu peut vous élever, oui. Mais lui peut vous étouffer longtemps pour que vous puissiez souffrir. Il va vous élever, mais l'homme a la capacité de vous étouffer. Le cœur est important, ne négligez jamais cela. Et pour la RDC, le Seigneur est en train de nous préparer à entrer dans notre canon. Mais c'est important de reconfigurer la mentalité de nous-mêmes en tant que peuple. Parce que si nous ne changeons pas cela, ça ne va pas changer. Les pasteurs, certains d'entre vous partent dans beaucoup de pays d'Europe, ailleurs. La nuit, vous êtes en voiture, vous arrivez là où il y a le feu. Il n'y a pas de policiers, vous vous arrêtez vous-même. Personne ne vous arrête. C'est-à-dire la tête se changea déjà. Quand tu arrives, tu vois les stop signs, tu t'arrêtes. Tu regardes à gauche, à droite, celui qui était venu avant passe, toi tu passes. Regardez les désordres qu'il y a dans nos rues. Ce n'est pas seulement un problème de route, parce que les embouteillages c'est partout. Dans d'autres pays, même les embouteillages, il y a l'ordre même dans les embouteillages. Et les mêmes personnes qui sont censées nous diriger, ce sont eux qui prennent le sens unique. On ne peut pas dire à son enfant ne vole pas. Moi, je vole, mais toi, ne vole pas. Non, ça va marcher. Je vais finir par une communication importante. Prenez le temps de voir les événements qui se passent aujourd'hui dans le monde. L'Afrique a la chance de redémarrer. Nous avons raté les rendez-vous de l'histoire deux fois. Au sorti de l'esclavage, après la colonisation et après l'indépendance, trois fois. Maintenant, la géopolitique mondiale est en train de changer. Les gens qui ont dirigé le monde unipolaire pendant plus de 70 ans, ils sont en train de perdre cela. Tout le pays grand sont en train de se repositionner. C'est maintenant que les Africains doivent renégocier leur place à la table des grands. Quand on a divisé l'Afrique en 1800, nous n'étions pas là. Maintenant, nous sommes là. Quand on nous a colonisés, nous étions des troubadours. Si on nous colonise aujourd'hui, c'est que nous sommes vraiment bazoba. Parce que maintenant, là, nous sommes allés chez eux. Nous sommes premiers, nous étions tous, même chez eux, on les a dominés à l'école. Ça veut dire que la jeunesse d'aujourd'hui ne peut pas être incolonisable. J'entends les gens qui disent, non, la Chine est en train de revenir, va coloniser l'Afrique. Comme, non, parce que la jeunesse africaine d'aujourd'hui ne peut plus être esclave de qui que ce soit. Les jeunes d'aujourd'hui ont compris que leur destin est dans leurs mains. Et nous devons nous lever pour ce pays. C'est à toi de faire la différence. Ne dis pas, Yom Tobo Samboko. Non, changer de langage. Oui, moi, je vais réparer le Congo. Ça doit commencer quelque part. Ça doit commencer quelque part, mes amis. Le courage de dire, qui est-ce que j'honore? Quand on est dans le repos de Dieu, on honore Dieu d'abord. On travaille avec lui. On transforme avec lui. On change avec lui. On dynamise avec lui. C'est lui. Il est notre partenaire dans ce processus-là. Il veut nous voir être participants au changement. Pas seulement assistants. Nous sommes assistés. Non. Nous participons avec lui. Nous changeons avec lui. De sorte que, même la Bible dit, malheur au pays dont l'enfant, le roi est encore enfant. Ou alors dont le roi prend de la liqueur le matin. La tête doit être correcte, l'âme doit être correcte. Je crois que c'est important. Mes amis, répétons ce message aux autres, ayons le courage de le partager. Le Seigneur nous a donné un beau pays. J'ai lu le livre du pasteur Maurice, très puissant. J'ai dit, est-ce qu'on peut forcer à nos autorités d'aller dans un séminaire de recyclage des principes bibliques? Il n'y a rien de mal. Ils amènent des experts. Je ne sais pas dans ce pays. Ils amènent des experts. Tous les experts qu'on vous amène sont français, belges, hongrois et américains. Il n'y a pas d'experts ici au Congo. Il n'y a pas d'experts ici à la borne. S'il n'y en a pas, payez-moi. J'ai une tête qui marche. Je peux aussi vous aider. Nous prêchons gratuitement à l'église, mais dans les institutions, vous me payez. Vous payez mon intelligence. Mes amis, nous ne sommes pas des zobas. Un zoba ne peut pas faire ça. Même si tu ne crois pas en moi, crois au moins aux œuvres. Toi, tu es directeur pendant 18 ans. Dans ton bureau, il n'y a pas de chaise. Le bâtiment de l'État que tu as hérité, ça fait 15 ans. Il n'y a même pas un ordinateur. Tu utilises encore le papier duplicateur. Toute une montagne qui... Tout est devenu jaune, de carton après carton. Mais tu viens ici, l'homme a fait ça. Va chez lui, dis, mon frère, l'excellence, c'est comment? Prends ça, amène dans ton bureau. Amène ton staff dealer. Nous allons tous à la borne apprendre l'excellence. Il n'y a rien de mal. Si vous avez honte de venir ici, prenez une salle à l'Edia. Invitez-nous, nous allons vous aider. Vous pensez que c'est parce que je prêche la Bible, que je suis, ce n'est pas en prêchant la Bible que le maire de ma ville, m'a placé comme son conseiller. C'est parce qu'on a parlé avec lui trois fois, il a vu qu'il y avait quelque chose au-delà de la Bible. Quand je dis au-delà de la Bible, c'est pas plus grand que la Bible, mais à part la Bible, il y avait quelque chose d'autre. C'est ça qui fait. Dieu utilise, nous forme et on apprend et on transforme. Quand la tête n'est pas en place, quand l'âme n'est pas en place, même la confiance du peuple ne peut pas vous suivre pendant longtemps. Que le Seigneur nous bénisse, nous allons prier. Je voudrais nous inviter à prier. Je voudrais que ce matin tu dises au Seigneur,
que tu as dit au Seigneur, Seigneur, je suis prêt. Aide-moi à t'honorer. Aide-moi à t'honorer. Je veux t'honorer. Réponds à ces trois questions importantes alors que Dieu t'a introduit dans son repos. N'oubliez jamais cela. Conduite, caractère et but. Conduite. Comment vais-je vivre ma vie? Caractère. Quel genre de personne vais-je être? But. Pour qui je vis? Comment vais-je vivre ma vie? Comme la parole me le dit. Quel genre de personne vais-je être? À l'exemple de Christ. Comme Paul a dit, soyez mes imitateurs comme j'imite Christ. Pour qui je vis? Le but. Pour qui je vis? Pour le Seigneur. Je suis directeur d'une compagnie, c'est pour le Seigneur. Je suis président de la République, c'est pour le Seigneur. Je suis gouverneur, c'est pour le Seigneur. Je suis chef d'entreprise, c'est pour le Seigneur. C'est lui que je veux honorer d'abord. Et quand tu fais ça, mon ami, la main de Dieu, sa faveur est sur toi. Et grâce à toi, des milliers vont connaître leur repos. Ils sont entrés dans Canaan parce que Josué était un bon leader. Tu entres dans ton repos, mais les repos des autres peuvent être conditionnés au tien. Quand toi tu entres, tu les amènes avec toi. C'est là où le leadership devient important, parce qu'il affecte le futur des autres. Un mauvais leader peut nous retarder de 20 ans. Un bon peut nous avancer de 50 ans. Ce sont les hommes qui ont transformé tout ce que nous envions. Quand Dieu nous introduit dans notre repos, il change notre mental. Nous devenons obsédés à l'idée du bonheur des autres. Qu'est-ce que je peux faire pour changer la vie des autres? Qu'est-ce que je peux faire? Dis au Seigneur ce matin, Dieu, que puis-je faire pour t'honorer davantage? Que puis-je faire pour contribuer à consolider ce repos que tu donnes à nous les frères de la bande, à nous les habitants de Matadi, à nous les Congolais? Que puis-je jouer comme rôle? Et si tu as une parcelle d'autorité dans les institutions du pays ou de la province, demande au Seigneur. Je suis ici. C'est toi qui m'as placé. Qu'est-ce que je dois faire pour t'honorer, pour contribuer à l'avancement de cette province? Laissez Dieu être honoré par rapport à ton positionnement. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Prie le Seigneur, mon ami. Dis-lui, Seigneur, là où je suis, je vais t'honorer. Ma conduite, je veux la changer. Avoir une conduite selon ta parole. Prends ce que tu apprends tous les jours ici à la borne, mets en pratique. C'est comme ça que tu veux vivre ta vie. Le caractère, quel genre de personne vais-je être? Quand les gens me regardent, je veux qu'ils disent quoi? Pour qui je vis? Qui est mon audience? Mon audience, c'est l'audience d'une seule personne. Jésus, mon audience est l'audience d'une seule personne. Jésus, mon audience est l'audience d'une seule personne. Jésus, mon audience est l'audience d'une seule personne. Jésus, d'une seule personne. Jésus, il me regarde. Il me regarde. C'est pourquoi je ne vole pas, parce qu'il me regarde. C'est pourquoi je ne déshonore pas, parce qu'il me regarde. C'est pourquoi je ne viole pas, parce qu'il me regarde. C'est pourquoi je ne détruis pas, parce qu'il me regarde. C'est pourquoi je ne corromps pas, parce qu'il me regarde. Parce que je sais que c'est pour lui que je vis. L'Église, c'est un parlement élargi. Il y a des parlementaires ici. Quelles sont les lois que vous créez ou vous votez? Ça honore qui? C'est pour le bonheur de qui? Est-ce que vous votez des lois simplement pour élever vos propres salaires? Pourquoi ne pas voter des lois pour élever les salaires des fonctionnaires, des gens de tout le monde, des enseignants? Posez-vous la question, qu'est-ce qui me motive? Est-ce mon intérêt ou l'intérêt de l'autre? Oh Seigneur, nous sommes là pour toi. Oh Seigneur notre Dieu, lève ta voix, continue à prier mon ami. Seigneur, aide ton peuple Aide-nous ce matin à être la vraie représentation de ta personne. Aide-nous ce matin à être la vraie représentation de ta personne. Aide-nous ce matin à être la vraie représentation de ta personne. Aide-nous ce matin à consolider le repos. Consolider le repos. Consolider le repos. Consolider le repos. Consolider le repos, Seigneur. Parce que nous ne voulons plus repos. Nous ne voulons pas. Si nous ne consolidons pas le repos, nous allons reproduire la crise. Nous allons reproduire la crise. Nous voulons consolider le repos pour ne pas reproduire la crise. Ô Seigneur notre Dieu. Les 40 ans de désert, c'était pour nous apprendre de bonnes valeurs, mettre notre cœur à niveau, afin de ne pas produire des crises dans le futur. Ou même quand il y aura des crises dans le futur, nous serons en mesure de les gérer, de les surmonter et de les survivre et les dépasser. Seigneur notre Dieu, Seigneur, c'est le moment pour le Congo. Je sais que tu vas élever des hommes et des femmes. Tu es en train d'élever des hommes et des femmes qui t'aiment et qui te craignent. Seigneur notre Dieu, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Je veux vivre pour toi. Tu es l'audience la plus importante pour moi. Tu es la seule audience qui m'intéresse. Je vais t'honorer par ma conduite. Je vais t'honorer par mon caractère. Je vais t'honorer par le but de ma vie. C'est t'honorer. Oh Seigneur, merci. Merci notre Dieu. Merci notre Papa. Merci notre Papa. Hallelujah.